Donc bonsoir à tous, mardi 26 mars 2024, donc c'est notre sixième séance de lecture consacrée à Schopenhauer.
Et dernière ?
Ce sera l'avant-dernière. La dernière, on parlera de l'amour et de la mort. Donc...
La date est fixée, la dernière ?
Elle sera, ce sera, bon, oui, il y a un calendrier, je l'annoncerai. Alors, et puis j'ajouterai que éventuellement, je me servirai d'une émission sur Radio Westrack pour faire aussi quelque chose sur Schopenhauer. Par exemple, la question de l'inconscient. Vous voyez, bon, j'essaie d'utiliser en plus, comme j'avais déjà fait pour Sartre. Voilà, donc ce soir, nous chercherons à comprendre essentiellement en quoi la philosophie de Schopenhauer est un pessimisme. Alors, on avait commencé, mais là, je vais poursuivre et éventuellement revenir sur certains points qui avaient été vus un peu trop superficiellement pour que les choses soient plus précises. Donc, comme je l'ai dit lors de la séance précédente, le pessimisme de Schopenhauer n'est pas une affaire de tempérament. Ce n'est pas un reflet de sa personnalité. Personnalité tourmentée. Ce n'est pas l'expression d'une vision purement subjective. Celle d'un homme aigri qui, parce qu'il est incapable de savourer l'existence, n'y voit que souffrance et malheur. Donc, par pessimisme, ordinairement, on entend l'attitude résignée d'un homme qui s'appuie sur un jugement négatif concernant l'existence humaine, concernant le cours des choses, concernant l'évolution historique. Or, réduire le pessimisme de Schopenhauer à un simple jugement de valeur, c'est méconnaître sa dimension philosophique. Son pessimisme est une thèse philosophique qu'il faut prendre au sérieux. Elle procède d'une réflexion sur la nature même de l'être, dont le fond est ce qu'il appelle la volonté, avec un V majuscule. Et la volonté, c'est une puissance universelle qui est au cœur de toute chose et qui se manifeste, comme on va le voir, en l'homme, par le désir. Alors, si je résume la thèse pessimiste, au fond, elle revient à dire que la souffrance est le fond de toute vie, étant donné précisément pour l'homme le caractère insatiable du désir. Mais alors ici, ne vous méprenez pas sur le sens du mot souffrance. Par souffrance, il ne faut pas ici entendre celle qui résulte, d'un choc qui vient de l'extérieur. Il ne s'agit pas non plus d'une souffrance factuelle et transitoire qui pourrait être supprimée si nos besoins et si nos désirs étaient satisfaits, s'ils trouvaient satisfaction, s'ils n'étaient pas frustrés. Non, il s'agit d'une souffrance essentielle qui tient à la nature même de la volonté et qui se traduit précisément en l'homme par l'insatiabilité de son désir. C'est ce que nous allons voir. Et Schopenhauer écrit ainsi au paragraphe 57 du Monde comme volonté et représentation que le désir est animé d'une soif inextinguible. Une soif inextinguible. Alors, avant de poursuivre notre lecture, je voudrais d'abord brièvement récapituler les étapes de la démarche qui conduit Schopenhauer à fonder son pessimisme. Le pessimisme se constitue en opposition à l'optimisme, à travers une interrogation sur la question du mal. Souvenez-vous que l'interrogation philosophique commence avec l'étonnement qui est précisément l'étonnement devant la présence du mal. Le mal sous la forme de la méchanceté, sous la forme de la souffrance, du malheur. Et comme on a eu l'occasion de le voir, le mal est partout, Il est répandu à toutes les échelles de l'existence. Je vous citais la dernière fois l'exemple de ces grandes tortues de l'île de Java qui, invariablement, lorsqu'elles sortent de la mer pour venir déposer leurs œufs sur la terre, se trouvent attaquées par des chiens sauvages en meute qui les renversent sur le dos et les dévorent vivantes. Il donnait cet exemple, parmi d'autres. Donc, vous voyez ici que c'était au chapitre 28 des suppléments. Vous voyez ici que la nature offre le spectacle d'une souffrance universelle que rien ne saurait justifier. Les espèces sont engagées dans une lutte pour l'existence sans fin et parfaitement absurde. Le mal n'a aucune raison, c'est ce que nous avons dit, précisément parce qu'il procède de la volonté, qui est cette puissance universelle, cette puissance aveugle qui échappe par essence au principe de raison. Bon, mais ce qui est vrai, c'est que l'homme ne peut pas se résoudre spontanément au caractère absurde du mal. Il ne peut pas s'empêcher de se poser la question pourquoi. Et comme on l'a vu, c'est la rencontre du mal qui éveille son interrogation et fait naître la philosophie. S'il ne souffrait pas, s'il ne souffrait jamais, il ne s'interrogerait pas, et au fond, la réflexion philosophique n'existerait pas. Mais selon Schopenhauer, les philosophes ont cherché plutôt à esquiver cette rencontre. Et l'histoire de la philosophie occidentale se résume à l'histoire de son refoulement. Et une des formes les plus abouties de ce refoulement, c'est ce que nous avions dit, c'est la doctrine de l'optimisme, celle du philosophe Leibniz, qui s'exprime notamment dans ses essais théodicées et dans son discours de métaphysique. Leibniz, un grand philosophe allemand de la fin du XVIIe siècle. Donc le pessimisme philosophique se constitue d'abord comme une critique de l'optimisme dont il dénonce le caractère illusoire. Et pour que les choses soient plus claires, je reviens brièvement sur cette doctrine optimiste. Je suis désolé de redire des choses que j'ai déjà dites, mais je pense que c'est nécessaire. Optimisme vient du latin optimum, qui veut dire le meilleur. Ainsi, l'optimisme, c'est cette doctrine qui prétend établir que le monde est le meilleur des mondes possibles. Accuser Dieu, son créateur, accuser Dieu d'avoir voulu le mal qui existe en ce monde, c'est être ignorant, c'est juger du monde à partir de notre expérience, qui est une expérience nécessairement limitée. Un monde, c'est un tout. C'est un tout dont les parties doivent être compatibles pour entrer en composition. Et cette compatibilité oblige donc Dieu, son auteur, à réaliser certaines parties, certains événements, qui par eux-mêmes ne sont pas satisfaisants, mais qui sont indispensables à l'équilibre du monde. C'est pourquoi il y a de la souffrance. C'est pourquoi il y a des injustices, des malheurs, qui peuvent même accabler des innocents. Mais le mal qui est ainsi produit peut être l'occasion d'un bien très supérieur, en ce qu'il contribue à l'harmonie de l'ensemble. Donc, vous voyez, pour l'optimiste, il faut juger le tout par le tout, et non pas par l'une de ses parties. C'est-à-dire que le monde est comme un immense tableau dont nous, de notre point de vue de créature limitée, eh bien, dont nous ne voyons qu'un infime détail. Donc, je répète, c'est un tableau dont nous ne voyons que quelques détails. Mais pour juger du monde, il faut s'élever par la raison à la compréhension des raisons qui ont conduit Dieu à choisir ce monde qui est notre monde. Or, puisque Dieu est par essence parfait, qu'il veut le bien, il a nécessairement créer le meilleur des mondes possibles. Et celui-ci, parce qu'il est un monde, il ne peut pas être absolument parfait. Il ne peut pas contenir que du bien. Il est le meilleur des mondes possibles en ce que Dieu, son auteur, a réalisé un maximum de bien à partir d'un minimum de mal. Un optimum. Alors, comme on le voit, et je résumais très grossièrement cette doctrine, comme on le voit, l'optimisme repose sur ce que Schopenhauer appelle un théisme, c'est-à-dire, au fond, tout simplement, l'idée d'un Dieu créateur du monde, d'un Dieu qui est la source absolue de toute existence. Et vous voyez que le métaphysicien, comme Leibniz, prétend s'élever à Dieu comme cause absolue par la raison. Vous voyez ? Or, c'est là, pour Schopenhauer, une connaissance impossible. C'est une connaissance impossible. Et le pessimisme de Schopenhauer s'inscrit, comme on a eu l'occasion de le voir, dans la démarche critique du philosophe Kant, grand philosophe du XVIIIe siècle, hein, pour lequel il ne saurait y avoir de connaissance au-delà des limites de l'expérience possible. Il ne peut y avoir de connaissance que dans les limites de l'expérience, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas connaître la réalité indépendamment de la manière dont elle nous apparaît en vertu des structures de notre esprit qui conditionnent notre connaissance. C'est ce que nous avions vu. Donc nos sciences, ainsi, ne connaissent pas la réalité telle qu'elle est en elle-même, la chose en soi. Elles ne connaissent que les choses que telles qu'elles apparaissent dans l'expérience en vertu des principes de notre représentation, en vertu des structures de notre esprit, parmi lesquelles il y a le principe de causalité. Et ce principe, c'est tout simplement celui qui fait que les phénomènes s'enchaînent pour nous selon des relations de cause à effet. Eh bien, ce principe, il établit seulement des liens entre les phénomènes. C'est-à-dire qu'il perd en revanche toute signification si on l'applique hors de l'expérience. Par conséquent, il est inacceptable de désigner Dieu comme la cause première, comme la cause absolue du monde, puisque ici, cela revient à appliquer le principe de causalité à un être qui est extérieur au champ de l'expérience, au champ des phénomènes. Et l'optimisme philosophique, donc, qui repose sur un théisme, eh bien, l'optimisme philosophique s'avère donc d'abord une illusion de la raison qui prétend connaître la réalité indépendamment de l'expérience, puisque, au fond, l'optimisme philosophique procède d'un usage illégitime du principe de causalité. Alors, vous voyez ici le premier point. Mais si Schopenhauer critique avec Kant la métaphysique, quand elle prétend s'élever au-delà d'expérience, il ne renonce pas, on l'a vu aussi, il ne renonce pas pour autant à toute métaphysique. Il ne renonce pas à percer la nature intime des choses, la nature intime de la réalité, au-delà des phénomènes. Il prétend accéder à la fameuse chose en soi, c'est-à-dire la réalité telle qu'elle est en elle-même. Mais il pense autrement, d'une manière tout à fait originale, d'une façon tout à fait différente, la métaphysique. Il pense la métaphysique, il conçoit la métaphysique à partir de l'expérience intime que nous avons de notre propre volonté en notre propre corps. Je ne reviens pas là-dessus, mais je le rappelle. Il part de l'expérience intime que nous avons de notre volonté pour conclure, mais je ne vais pas reprendre son raisonnement, pour conclure à l'intuition de la volonté universelle qui est le fond, qui est le noyau intime de toute chose. Je ne développe pas, on l'a vu, hein, déjà, à moins que vous me reposiez la question en fin de séance. Donc dès lors Se confronter à la question du mal, ce n'est plus chercher sa justification en s'élevant par la raison à l'auteur du monde, à Dieu, en s'interrogeant sur les raisons du choix divin. Mais désormais, se confronter à la question du mal, c'est comprendre d'où il vient, c'est saisir sa source dans l'être même des choses, c'est-à-dire la volonté. La volonté qui est, au fond, le fond de l'être. C'est comprendre ainsi que le mal est indépassable, inévitable. Hein ? Donc on ne cherche pas à justifier le mal. Hein ? Ça, c'est ce que fait le film métaphysicien optimiste. Mais on cherche à savoir, à comprendre d'où il vient, quelle est sa source. Et on va chercher sa source dans une analyse de la nature de l'être. Donc, vous voyez que le pessimisme est d'abord un exercice de lucidité philosophique qui consiste à se désillusionner de toutes les fictions théologiques au nom desquelles on prétend justifier l'existence du mal. Deuxième point, d'une interrogation générale sur le mal, on passe ensuite à une interrogation sur la souffrance, et particulièrement sur la souffrance humaine. Et c'est l'objet de la dernière partie du Monde comme volonté et représentation, la quatrième partie, et puis aussi du chapitre 56 des suppléments, qui a pour titre « De la vanité et des souffrances de la vie », sur lequel je m'appuie. Alors, la volonté, avec un V majuscule, hein, dont on montrera quelle est la source de la souffrance. Eh bien, la volonté, rappelez-vous, c'est une puissance métaphysique qui s'objective en l'homme, qui se manifeste en l'homme, parce qu'il appelle, lui, sa propre volonté, qui n'est en fait qu'une manifestation de la volonté, avec un V majuscule, à l'échelle humaine. C'est-à-dire que c'est une manifestation qui s'accompagne de conscience et d'intelligence, et qui s'exprime sous la forme du désir, d'un désir qui va se porter sur des objets, qui va se fixer des buts. Vous voyez ? Mais, comme on va le voir, la souffrance ne vient pas seulement du fait que le désir humain se heurte à des obstacles qui entraînent sa frustration. Plus profondément, la souffrance est l'expression de la volonté qui s'éprouve comme une force qui se déploie aveuglément, sans but et sans limite, à la manière d'une soif inextinguible, pour reprendre cette formule de Schopenhauer au paragraphe 57. Alors, comme on l'a vu, là aussi, c'est en l'homme, parce que l'homme est un être intelligent et conscient, c'est en l'homme que la souffrance est la plus intense, comme dit Schopenhauer, qu'elle devient plus évidente, c'est ce qu'il dit au paragraphe 56, et est loin de nous libérer de la souffrance, eh bien, loin de nous libérer de la douleur, le savoir et les lumières, au contraire, l'accroissent. Comme cela a été dit dans ce fameux livre de la Bible, l'Ecclésiaste, où il est dit « Qui accroît sa science, accroît sa douleur ». Aussi, maintenant, pour montrer la validité de sa thèse pessimiste, eh bien, Schopenhauer va procéder de deux manières. Il va aborder la question de la souffrance sous deux points de vue. D'abord, il va proposer une démonstration a priori du pessimisme à partir de la nature même de la volonté. Il va montrer ainsi que le fond de la vie est souffrance. Donc il va d'abord procéder ainsi. Vous voyez, là c'est une analyse métaphysique, si vous voulez. Il va examiner la nature de la volonté. Il va montrer quelle est la source de la souffrance. Ça, c'est la première démarche, genre la plus importante. Hein. Et puis, d'autre part, il va développer aussi une approche que l'on peut qualifier d'ad posteriori, alors c'est l'expression qu'emploie Schopenhauer lui-même, une approche qu'on peut qualifier d'a posteriori dans la mesure où elle s'enracine dans l'expérience concrète de la vie. A posteriori, ça veut dire après expérience. A priori, c'est avant toute expérience. Vous voyez ? Bon. Et c'est cette approche qui est développée surtout au paragraphe 59 et dans le chapitre 56 des suppléments. Alors, au début d'ailleurs, et vous allez voir ce texte, c'est le premier texte qu'on va lire. Alors, les deux précédents, je ne les ai pas lus parce que, d'une certaine façon, ils illustrent ce que dit Schopenhauer de manière générale sur le spectacle de la souffrance qui existe dans le monde. Bon, mais là, nous allons lire le texte numéro 3. En partie du texte numéro 3, le paragraphe 59, et dans ce paragraphe, il s'explique sur l'intérêt de cette double démarche que je viens de vous présenter. Alors, comme la première démarche, celle que j'ai appelée la démonstration a priori, vise, alors je cite le texte, ligne 22, vise à découvrir, ligne 22, par des raisons toutes générales et a priori, les racines profondes par où la douleur tient à l'essence même de la vie, ce qui la rend inévitable. Bon, ben, comme cette démarche, il le dit plus haut, ligne 20, on peut lui reprocher d'être trop froide, d'être trop philosophique, d'être trop abstraite, si vous voulez, comme on dit souvent. Hein. Eh bien, c'est pourquoi il recourt à une deuxième approche, la vérification de la thèse pessimiste a posteriori, qui peut-être paraîtra plus convaincante. Et là, je lis le texte, ligne 24, mais si l'on veut une vérification a posteriori, il est aisé de l'obtenir. Il suffit d'être sorti des rêves de la jeunesse, de tenir compte de l'expérience, de la sienne et de celle des autres, d'avoir appris à se mieux connaître par la vie, par l'histoire des temps passés et du présent, par la lecture des grands poètes, etc. etc. Alors, comme c'est la démarche la plus facile à suivre, je vais commencer par elle, si vous voulez. Mais alors, tout de suite, je dois vous prévenir que c'est la démarche la plus superficielle. Et c'est une démarche qui risque de nous égarer en nous faisant croire qu'il suffit de s'éveiller des premiers rêves de sa jeunesse, de bien vouloir ouvrir les yeux sur la vie des hommes pour établir la validité du pessimisme. Alors, citons quelques extraits, hein, c'est rapide, on en a vu quelques-uns. Que dit exactement Schopenhauer au paragraphe 59 ? Je cite par exemple, ligne, alors c'est colonne de droite en haut, regardez bien. Quant à la vie de l'individu, toute biographie est une pathographie. Bon. Ah, ok, d'accord. Pourquoi c'est une pathographie ? Car vivre en règle générale, c'est épuiser une série de grands et petits malheurs, etc., etc. Alors, plus bas, vous voyez, vous allez plus bas, et regardez ce qui est écrit, là on l'avait lu, mais je le reprends. Si l'on nous mettait sous les yeux à chacun les douleurs, les souffrances horribles auxquelles nous expose la vie, l'épouvante nous saisirait. Prenez le plus endurci des optimistes, promenez-le à travers les hôpitaux, les lazarets, les cabinets où les chirurgiens font des martyrs, à travers les prisons, les chambres de torture, les hangars à esclaves, sur les champs de bataille, etc., etc. Bon. Et alors, qu'est-ce que dit plus loin, d'ailleurs, Schopenhauer ? Eh bien, qu'est-ce que dira cet optimiste ? Eh bien, il verra, hein, c'est plus loin, hein, il verra vers la fin du paragraphe, il verra bien alors ce que c'est que son meilleur des mondes possibles. Alors, et puis dans le chapitre 56 des suppléments, il y a aussi encore un autre passage, c'est le texte numéro 5, donc c'est page 2. où il dit, là aussi on l'avait cité, bon, on peut le redire rapidement. Regardez, c'est le passage que j'ai souligné. Ah non, c'est avant. C'est au début. Avant de prononcer avec tant d'assurance que la vie est un bien digne de désir ou de reconnaissance, qu'on veuille comparer une fois sans passion la somme de toutes les joies possibles qu'un homme peut goûter dans son existence avec celle de toutes les souffrances possibles qui peuvent l'atteindre, à mon sens, la balance ne sera pas difficile à établir. Bon. Alors, évidemment, j'arrête là. Ces considérations sur l'existence humaine peuvent paraître partiales et tout à fait discutables. On est tenté de reprocher à Schopenhauer son manque de nuance, un certain goût pour l'exagération, ou au moins un certain goût pour les généralisations assez sommaires. Et il faut bien reconnaître que c'est souvent ce qu'on a retenu de sa lecture. Et c'est ce qui semble autorisé à réduire son pessimisme à une forme de délectation morose. Hein ? On est tenté de conclure ainsi. Mais lui-même est conscient du danger que constitue un tableau aussi sombre. Car on pourrait être tenté de conclure qu'il suffit de dresser la liste des misères humaines pour établir la validité de la thèse pessimiste. Et il écrit ainsi, alors reprenez le paragraphe 59, donc page 1 à gauche, ligne 15 à 20. Alors ça c'est intéressant. Regardez ce qu'il écrit. En outre, ligne 15 à 20, le 1 n'apparaît pas. 15 à 20. Donc, en outre, un pareil tableau passerait aisément pour une pure déclamation sur notre triste destin, comme on en a fait souvent, et comme moi aussi j'en fais, il faut bien reconnaître. On l'accuserait là-dessus de partialité, sous prétexte que tous les traits de la peinture seraient des faits particuliers. Alors, ça, c'est intéressant, parce que voilà. Ici, Schopenhauer est tout à fait conscient que évoquer des faits particuliers pour valider le pessimisme, c'est être exposé à l'accusation de partialité. Pourquoi évoquez-vous ces souffrances et ne relevez-vous pas davantage les joies et les plaisirs, hein ? Oui, on peut toujours lui rétorquer cela. Et le pessimisme de Schopenhauer n'est-il pas après tout qu'une simple affaire d'humeur ? Hein, de tempérament, qui exprime au fond sa personnalité. Voilà ce qu'on va être tenté de lui reprocher. Or, Schopenhauer a bien conscience que si l'on veut vraiment départager en toute rigueur l'optimisme et le pessimisme, eh bien on ne peut pas s'en tenir à une liste de faits particuliers, qu'il s'agisse de faits de souffrance ou qu'il s'agisse de joie. Mais il faut considérer le monde en sa totalité, comme le fait Leibniz. Il faut considérer le monde en sa totalité comme un tableau. Et la métaphore du tableau, la métaphore picturale, revient souvent sous la plume ici de Schopenhauer. Donc il faut considérer le monde comme un tableau qu'on se donne en spectacle, en quelque sorte, hein, quand on va au musée, et dans lequel entrent en composition les faits de détail, hein. Et pour contrecarrer l'optimisme, il faut donc aborder le monde en sa totalité et non pas comme une somme de faits particuliers. Donc opposer à l'optimiste des faits particuliers qui dénotent la souffrance, cela ne peut pas suffire à ébranler sa conviction, car il pourra toujours répondre que certes, il y a des souffrances, certes, il y a des malheurs, mais que les uns et les autres ne rompent pas l'harmonie du monde et qu'ils trouvent toujours une compensation et une justification. On pourra toujours répondre ça, l'optimiste. Alors, à l'optimisme de Leibniz, eh bien, Schopenhauer va donc opposer la thèse pessimiste selon laquelle le monde est le pire des mondes possibles. Seulement, il faut savoir comment on va entendre cette énoncé. La dernière fois, je l'ai abordé, mais je pense que notre lecture a été trop superficielle. Donc je vais la reprendre. À première lecture, on pourrait croire en effet que Schopenhauer se contente de renverser l'optimisme de Leibniz en faisant un usage polémique de sa formule. Le monde est le pire des mondes possibles. Ah, ben d'accord, c'est pas vrai, c'est pas le meilleur, c'est le pire. Bon, on pourrait penser qu'il s'amuse à ce genre de jeu. C'est pas ça. Ou alors, si c'était le cas, cela signifierait que, contrairement au Dieu sage et bon, créateur du monde, qui est celui de l'optimisme, eh bien, Schopenhauer opposerait l'idée d'une intelligence démoniaque qui créerait les hommes pour jouir du spectacle de leur souffrance. Hein, ce qu'on pourrait penser. Bon. Et certaines formulations du chapitre 56 des suppléments peuvent inciter à le penser. Et j'en relève deux. Alors, une que je n'ai pas photocopiée, je l'avais photocopiée précédemment, et c'est là-dessus que l'un d'entre vous m'avait arrêté, sur cette formule. Regardez bien, je la lis, elle n'est pas hein, dans les textes là. Partout ainsi, qu'il s'agisse de l'individu isolé de l'ensemble, les conditions d'existence ont été mesurées avec une étroite économie, sans jamais rien de superflu. Première formule. Et puis, une autre formule qui se trouve dans le texte que je vous ai photocopié, c'est le texte numéro 4. Texte numéro 4, donc toujours page 1. Et regardez bien, c'est la ligne 6 à 8. Ligne 6 à 8, regardez bien. Or, ce monde a été disposé tel qu'il devait être pour pouvoir tout juste exister. Serait-il un peu plus mauvais qu'il ne pourrait déjà plus subsister ? Donc, on pourrait penser, à première lecture, qu'un esprit malfaisant, qu'un esprit démoniaque, transcendant, à disposer le monde, à agencer le monde, à organiser le monde, de telle sorte qu'il puisse tout juste exister. Et par là, ce serait le pire des mondes possibles. Il aurait fait exprès hein, d'agencer les choses de cette façon. Disposer, on peut trouver comme synonyme agencer, organiser. Mais Schopenhauer écarte explicitement cette interprétation en expliquant juste avant en quel sens il faut entendre l'adjectif possible dans la formule « le pire des mondes possibles ». Regardez bien, juste avant, ce qu'il écrit sur l'adjectif possible, ligne 4. « Possible, en effet, signifie non pas ce qui peut se présenter à l'imagination rêveuse de chacun, mais ce qui peut exister et subsister d'une vie réelle. » Hein, je reprends. « Possible, en effet, signifie non pas ce qui peut se présenter à l'imagination rêveuse de chacun, mais ce qui peut exister et subsister d'une vie réelle. » Autrement dit, la disposition du monde dont parle Schopenhauer ne renvoie à aucune intelligence transcendante qui aurait conçu le monde avant de le réaliser. Mais cette disposition se confond simplement avec sa possibilité d'exister et de subsister, c'est-à-dire au fond avec l'ensemble des conditions sans lesquelles il n'existerait plus, il ne pourrait plus subsister. Et on n'a pas besoin ici, pour parler de cet ensemble des conditions, de faire appel à une intelligence supérieure qui agencerait ces conditions. Simplement, on est en train de dire que pour que le monde puisse continuer à exister, il faut qu'un certain nombre de conditions soient réunies. C'est tout. De la même manière, pour qu'un être vivant puisse continuer à vivre, il faut que il jouisse d'un certain nombre de conditions favorables, sans lesquelles il périt. Eh bien, ainsi, un monde pire que notre monde serait un monde tout simplement qui ne peut plus exister, qui ne peut pas exister, car il serait privé d'un certain nombre de conditions, un certain nombre des conditions qui permettent de se maintenir à l'existence. Donc notre monde ne pourrait plus subsister, par exemple, si des catastrophes détruisaient les conditions qui lui permettent d'exister. Et vous voyez que plus bas, là, à partir de la ligne 13, hein, à partir de la ligne 13, vous allez voir que Schopenhauer, on ne va pas tout lire, invoque, il parle du hasard, si par hasard certaines conditions manquaient, C'est tout. Donc il n'invoque pas ici une intelligence divine qui agencerait les choses. Regardez bien, lisons le texte à partir de la ligne 13. En outre, la solide écorce planétaire abrite et recouvre les forces naturelles puissantes, toutes prêtes, au moindre hasard, qui leur laissera le champ libre, à anéantir et l'écorce et tous les vivants qu'elle porte. Sur notre planète, le fait s'est déjà produit 3 fois au moins, et se répétera plus souvent encore. Les tremblements de terre de Lisbonne, alors, le fameux tremblement de terre de Lisbonne en 1755, qui a fait vraiment... la une des journaux télévisés de l'époque, qui a suscité une controverse entre Voltaire et Rousseau. Hein. Bon, c'est vraiment un événement qui a marqué profondément les esprits de l'époque. Et Voltaire avait écrit un poème sur le désastre de Lisbonne. Eh bien, donc, ce fameux tremblement de terre de Lisbonne, comme il dit ensuite... celui de Haïti, l'ensevelissement de Pompéi ne sont que de légères et malicieuses allusions aux catastrophes possibles. Bah, vous avez connu encore peu de choses. Hein. Ça peut être pire. Hein. Vous voyez, et puis alors, vous voyez, pour un écologiste un peu catastrophiste, alors là, je peux vous dire qu'il a de quoi s'inquiéter. Hein. Mais c'est, en plus, c'est vrai, il y a un certain nombre de conditions... une petite altération et hop, ça déclenche un certain nombre de forces que vous ne pouvez plus effectivement arrêter. C'est un fait. Bon, on le sait aujourd'hui, ça. Eh bien, Schopenhauer, c'est le premier écologiste. Donc le plus mauvais des mondes possibles, donc, n'exige aucun créateur. Aucun esprit malfaisant pour être tel. Contrairement justement au meilleur des mondes possibles, qui existe lui au contraire, un Dieu sage et bon pour exister, pour être organisé. Donc vous voyez qu'en renversant l'optimisme, Schopenhauer renverse également le mythe de la création. L'idée d'un Dieu sage et bon qui soutient cette thèse, parce que l'optimisme ne peut pas exister sans un théisme. Hein ? Donc ici, par contre, la thèse... du pire des mondes possibles n'a pas besoin de s'appuyer sur un quelconque théisme ou quelconque référence à une intelligence transcendante. Donc vous voyez que le plus mauvais des mondes possibles, c'est notre monde, en tant qu'il doit sans cesse faire effort pour exister, dans un combat incessant contre ce qui menace son existence, tout simplement. Et ce combat, il se mène à tous les niveaux, au niveau des individus, au niveau des espèces et au niveau du monde dans sa totalité. Puis le monde, ce monde effectivement, c'est ce monde tel qu'il procède de la volonté, hein, de cette fameuse volonté, de cette poussée aveugle, incessante, sans limite, qui est au fond de toute réalité. Bon, mais Schopenhauer ne rétorque pas seulement à l'optimiste que le monde est le pire des mondes possibles. Il récuse aussi la thèse optimiste pour sa superficialité. C'est-à-dire que l'optimiste, c'est celui qui reste à la surface des choses, à la surface des événements. Il regarde le monde comme un panorama. Hein ? Il regarde le monde comme s'il était extérieur au monde, en quelque sorte. Mais il ne parle pas de la souffrance telle qu'elle est vraiment vécue. Il parle de la souffrance comme s'il ne la vivait pas. C'est-à-dire que son propos vise à montrer que le fait de la souffrance trouve une compensation, une justification. Il discute de la souffrance et du mal en termes de quantité, en termes de proportion. Quelle est la proportion de bien, quelle est la proportion de mal qui prédomine dans le monde ? Voilà, au fond, le contenu de sa discussion. Or, pour Schopenhauer, discuter ainsi du monde comme si on l'avait en spectacle, c'est s'interdire de considérer l'essentiel, c'est éviter d'aborder le fond même de la réalité, le fond même de l'être, qui est justement la souffrance qui émane de la volonté. Et ici, regardez, je vais citer Schopenhauer, c'est le texte numéro 5, donc page 2. On a vu le texte au début, et bien là, on va le prendre à partir du passage qui est souligné. Mais au fond, dit Schopenhauer, hein, le texte numéro 5, page 2, en haut, à gauche, mais on a lu le début, et là, on commence à partir du passage souligné. Mais au fond, c'est une discussion bien superflue que celle qui porte sur la proportion du bien et du mal dans le monde. Déjà, la simple existence du mal tranche la question, car le mal ne peut être jamais ni effacé, ni même compensé par un bien simultané ou postérieur. En effet, des milliers d'hommes auraient vécu dans le bonheur et la volupté que les angoisses mortelles et les tortures d'un seul n'en seraient pas supprimées. Et mon bonheur présent n'empêche pas plus mes souffrances passées de s'être reproduites. Et je vais plus loin, ma douleur présente ne peut jamais être supprimée par des satisfactions futures. Les unes et les autres remplissent leur temps. Donc vous voyez ici, au fond, c'est bien agréable intellectuellement de discuter sur, l'harmonie du monde, sur son degré de bien, son degré de mal, mais au fond, c'est une discussion qui fait comme si, effectivement, nous ne vivions pas la souffrance. Or, la souffrance, effectivement, elle est au fond de l'être, et c'est ça qu'il va falloir comprendre. Donc, troisième point, il va donc s'agir maintenant de considérer donc, le fond de toute vie humaine, qui est souffrance, ou plus exactement, il va s'agir de comprendre comment la souffrance peut venir de la volonté, hein, de ce que Schopenhauer appelle la volonté. Et je reprends ici la formulation de Schopenhauer au début du paragraphe 59. Regardez, lignes 22 à 24, on l'a déjà lu, mais je la reprends cette formule, elle est utile. Il s'agit, dit-il, donc c'est page 1, paragraphe 59, regardez, ligne 22, il s'agit, rappelez-vous, de découvrir par des raisons toutes générales et a priori les racines profondes par où la douleur tient à l'essence même de la vie, ce qui la rend inévitable. Voilà ce qu'il va falloir comprendre. Et ici, le premier point à souligner, c'est ce que je vais résumer d'une formule, c'est l'irréalité du plaisir. Alors, je vais expliquer. L'irréalité du plaisir. C'est-à-dire, au fond, qu'est-ce que va montrer Schopenhauer ? C'est que les plaisirs ne sont pas seulement moins nombreux que les joies, mais ils sont surtout moins réels. Excusez-moi, les plaisirs ne sont pas seulement moins nombreux que les souffrances. Je dis de bêtises. Ils ne sont pas seulement moins nombreux que les souffrances, ils sont surtout moins réels. Et là, on va lire deux extraits. On va lire deux extraits sur lesquels je vais revenir ensuite, que je vais ensuite expliquer. Vous avez le texte numéro 7, d'abord. Ligne 1 à 10. C'est le début du paragraphe 58. Alors, il est très célèbre, ce texte. Très célèbre. La satisfaction, le bonheur, comme l'appellent les hommes, c'est au propre et dans son essence rien que de négatif. En elle, rien de positif. Il n'y a pas de satisfaction qui d'elle-même et comme de son propre mouvement vienne à nous. Il faut qu'elle soit la satisfaction d'un désir. Le désir, en effet, la privation, est la condition préliminaire de toute jouissance. Or, avec la satisfaction cesse le désir, et par conséquent, la jouissance aussi. Donc, la satisfaction, le contentement, ne saurait être qu'une délivrance à l'égard d'une douleur, d'un besoin. Premier texte. Et puis, vous allez un peu plus loin, ligne 21-22. Le fait immédiat pour nous, c'est le besoin tout seul, c'est-à-dire la douleur. Il emploie le mot besoin au sens où j'ai besoin d'eux. Hein. ce que l'on dit lorsqu'on éprouve même un désir. Hein, vous voyez ? La souffrance éprouvée, quoi, en quelque sorte. Et puis, vous avez ici un deuxième texte, lisons-le aussi. C'est le texte numéro 8, que nous allons lire partiellement, et qui peut paraître absolument déroutant. Ce sont des textes qui paraissent déroutants, en première lecture. Lisons-le, le texte numéro 8. « Nous sentons la douleur, mais non l'absence de douleur. Le souci, mais non l'absence de souci. La crainte, mais non la sécurité. Nous ressentons le désir, comme nous ressentons la faim et la soif. Mais le désir est-il rempli, aussitôt il en advient de lui, comme de ces morceaux goûtés par nous, et qui cessent d'exister pour notre sensibilité dès le moment où nous les avalons. » Et puis, allons plus loin, ligne 12. « Seul en effet, la douleur et la privation, le manque, peuvent produire une impression positive et par là se dénoncer d'elles-mêmes. Le bien-être, au contraire, n'est que pure négation. » Alors, il faut comprendre ce que ça veut dire, hein, parce qu'effectivement, le mot négation, vous pouvez mal comprendre le terme. Hein. C'est assez déconcertant de voir ici que, comment Schopenhauer dit que, au fond, le bonheur n'est rien que de négatif. C'est déconcertant. Bon, alors expliquons. Donc, le plaisir, la satisfaction, le contentement, enfin, c'est la même chose. Le plaisir n'existe pas par lui-même. Il est toujours éprouvé comme le comblement d'un besoin ou la satisfaction d'un désir. Il n'existe pas par lui-même. Bon, par exemple, prends l'exemple, le plaisir de boire naît de la soif. Le plaisir de manger naît de la faim. Le plaisir sexuel, du désir sexuel. Quant aux besoins et aux désirs, ils ne sont jamais eux-mêmes que l'épreuve d'un manque. Que l'épreuve d'un manque, l'expérience d'une privation. C'est-à-dire, ils sont une souffrance, en ce sens-là. Vous voyez, en quel sens ils sont une souffrance? Avoir besoin de boire, c'est manquer d'eau. Désirer revoir une personne aimée, c'est souffrir d'en être privé. Donc, vous voyez que le plaisir n'est donc en lui-même qu'une délivrance à l'égard d'une souffrance préalable, il n'apparaît que comme la cessation d'une souffrance antérieure. Et encore une fois, c'est dire que le plaisir n'existe pas par lui-même. Il n'existe pas par lui-même. Il n'existe qu'à partir de la souffrance dont il est la délivrance. Alors, je reprends les formules, hein, des textes que j'ai cité, reprenez le texte numéro 7, ligne 8 à 10. Donc, la satisfaction, le contentement, ne saurait être qu'une délivrance à l'égard d'une douleur, d'un besoin. Et puis, ça veut dire ici, tout simplement, que, au fond, seule la souffrance est réelle. Seule la souffrance est réelle, seule elle a une existence positive. Positive, ça veut dire réelle. Réel. Négatif, ça veut dire au fond irréel. Ce qui n'existe pas par soi-même, ce qui n'existe que par rapport à autre chose que soi. Vous voyez ? Et vous avez encore, texte numéro 8, cette formule que je recite à nouveau, ligne 12. Seul, en effet, la douleur et la privation, le manque, peuvent produire une impression positive. Positif, ça ne veut pas dire « Ah, c'est super hein !» Non, ça veut dire une impression vraiment réelle. Et par là, se dénoncer d'elle-même, le bien-être, au contraire, n'est que pure négation. Alors, en quel sens, encore une fois, en quel sens, ici, Schopenhauer dit-il que le plaisir n'est pas positif, que le bonheur n'est pas positif, au sens où, je répète, il n'a pas de réalité propre. Au sens où il n'est pas véritablement quelque chose en plus que la souffrance, qui elle, en tout cas, sans le moindre doute, est l'épreuve d'un manque. Donc vous voyez que le plaisir n'étant qu'une suspension momentanée de la souffrance du désir, eh bien on peut dire, comme Schopenhauer, et ça c'est assez paradoxal, on peut dire que le plaisir n'est pas véritablement senti. Hein, comme il dit, regardez bien au début du texte numéro 8, nous sentons la douleur, mais non l'absence de douleur, et l'absence de douleur c'est le plaisir. C'est le fait que la douleur, elle est, à partir du moment où le désir est satisfait, ben, il y a une baisse de tension en quelque sorte. Hein. Et une sorte de rétablissement de l'équilibre organique qui précédait. Voilà, c'est le plaisir. Et donc, vous voyez que le plaisir n'est ici que l'ombre de la souffrance. Il n'est que l'ombre de la souffrance, c'est-à-dire qu'il se construit sur la réalité de cette souffrance et il a ainsi quelque chose d'irréel. Je reprends encore une formule du texte numéro 7. Le fait immédiat pour nous, c'est le manque, c'est-à-dire la douleur. Le fait immédiat pour moi, ce qui est immédiatement vécu, c'est ça. Et à partir de là, oui, on éprouvera du plaisir, mais à partir de la souffrance préalablement éprouvée. Alors, de l'irréalité du plaisir, il faut tirer trois conséquences, et vous allez voir, c'est intéressant. Aucun plaisir, d'abord, n'est durable. Première conséquence, aucun plaisir n'est durable. Si le plaisir n'est que la satisfaction d'un désir, il cesse avec cette satisfaction et il n'existe que dans le laps de temps qui sépare la douleur de l'état d'insensibilité où nous ramène le comblement de notre manque. Moi ?
J'entends mal. On peut se le remémorer, s'en souvenir.
Alors, on va voir. C'est quelque chose. C'est quelque chose qu'on va voir. En fait, pour l'instant, je suis en train de dire que nul n'éprouve plus de plaisir à boire dès lors que sa soif est étanchée. Hein, on est d'accord. Et celui qui n'a plus faim, il est indifférent à la nourriture. Bon. Alors, ce que veut montrer surtout Schopenhauer, c'est que nous ne passons pas de la douleur au plaisir comme à un état stable. C'est pas quelque chose de stable. Mais nous passons de la douleur à l'indifférence, voire à ce qu'il appelle l'ennui. L'ennui, c'est ce que l'on éprouve en absence... c'est la souffrance que l'on vit en absence de désir. L'absence de désir prolongé se traduit en ennui. Et si, bien sûr, le désir n'est pas relancé sur un autre objet. Hein ? Donc, le plaisir, si on regarde bien ce que dit Schopenhauer, il ne constitue que ce court moment transitoire entre deux pôles de la sensibilité qui sont d'un côté d'abord la souffrance, donc la souffrance du désir, et puis de l'autre côté l'ennui. Alors regardez bien, paragraphe 57, le texte numéro 6, texte très célèbre aussi, très très célèbre. Vouloir, alors vouloir encore une fois, entendez bien vouloir au sens de Schopenhauer, hein, cette espèce de force aveugle. Vouloir, s'efforcer, voilà tout leur être. Il parle ici des animaux et des hommes. Hein. C'est comme une soif inextinguible. Or, tout vouloir a pour principe un besoin, un manque, donc une douleur. C'est par nature, nécessairement, qu'ils doivent devenir la proie de la douleur. Mais que la volonté vienne à manquer d'objet, qu'une prompte satisfaction vienne à lui enlever tout motif de désirer, et les voilà tombés dans un vide épouvantable. Dans l'ennui. L'ennui, c'est un vide épouvantable. Leur nature, leur existence, leur pèse d'un poids intolérable. La vie donc aussi, comme un pendule, de droite à gauche, de la souffrance à l'ennui. Ce sont là les deux éléments dont elle est faite, en somme. Arrêtons là. Alors oui, Schopenhauer, c'est pas là pour faire plaisir, hein. Alors, vous voyez, si je résume, vous avez une sorte de cercle du manque, en quelque sorte. Tantôt nous désirons ce que nous n'avons pas, alors nous souffrons, de ne pas l'avoir. Ou tantôt nous avons ce que nous ne désirons plus, puisque nous l'avons. Et à ce moment-là, nous nous ennuyons. Nous souffrons de l'absence de désir. Vous n'avez pas le choix, hein, c'est toujours le manque qui est toujours là, présent, sous deux modalités différentes. Entre les deux, il y a le plaisir, mais il n'occupe qu'un moment fugitif. Le moment où le pendule, qui symbolise le mouvement de la vie, le moment où le pendule atteint le centre de son mouvement. Et le désir satisfait, la souffrance a cessé, mais comme vous le voyez, cette cessation n'est pas un état de plénitude. C'est ça ce que veut surtout montrer Schopenhauer. C'est-à-dire à la souffrance du désir succède l'ennui, qui est son absence, hein, qui est l'absence de désir, et nous verrons tout à l'heure que cette absence de désir, l'ennui, peut susciter une souffrance encore plus insupportable que la souffrance du désir. C'est l'ennui qui va occuper une place très importante dans la réflexion ici de Schopenhauer. Alors ça, c'est la première conséquence. Le plaisir n'est pas durable. Deuxième conséquence, le plaisir, et là encore par extension, le bien-être, le bonheur, le plaisir ne saurait être connu directement, immédiatement. Je reprends encore une fois cette formule que j'ai déjà citée. Texte numéro 7, ligne 22. Le fait immédiat pour nous, c'est le besoin tout seul, c'est-à-dire la douleur. Pour la satisfaction et la jouissance, nous ne pouvons les connaître qu'indirectement. Et après, vous allez voir, on va parler du souvenir, etc. Pour la satisfaction et la jouissance, nous ne pouvons les connaître qu'indirectement. Et comme va justement le montrer ensuite Schopenhauer, nous ne pouvons les connaître qu'à travers le prisme de la douleur dont ils sont la cessation. C'est-à-dire, nous ne pouvons, encore une fois, connaître ici, je parle de la satisfaction et de la jouissance, nous ne pouvons les connaître qu'à travers le prisme de la douleur, le prisme de la souffrance, dont ils sont la cessation. Et ce prisme, comme va le montrer Schopenhauer, ce prisme peut alors prendre trois formes, celle du souvenir, celle de la comparaison, ou encore celle de la perte. Alors, on va les examiner dans l'ordre. Alors, par exemple, comme le dit le texte numéro 7, ligne 24, regardez bien, je lis, ligne 24, voilà pourquoi... Alors, oui. Non, non, d'abord, plus haut. Il nous faut faire appel au souvenir de la souffrance, de la privation passée, qu'elles ont chassée tout d'abord. Alors que la jouissance et la satisfaction ont chassé la souffrance. Mais nous avons le souvenir de cette souffrance. Voilà pourquoi les biens, les avantages qui sont actuellement en notre possession, nous n'en avons pas une vraie conscience. Nous ne les apprécions pas. Il nous semble qu'il n'en pouvait être autrement. Et en effet, tout le bonheur qu'il nous donne, c'est d'écarter de nous certaines souffrances. Alors, donc ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui peut nous rendre sensibles, les biens dont nous jouissons actuellement, c'est tout d'abord le souvenir des souffrances endurées, des malheurs endurés. Parce que j'ai le souvenir d'avoir été malade. Parce que j'ai le souvenir d'avoir été malade, je peux jouir de ma santé actuelle. Mais la santé me serait elle-même indifférente si je n'avais pas la possibilité de me remémorer la maladie qui l'a précédée. C'est un peu l'histoire de celui qui se cogne la tête contre les murs pour jouir du fait que quand il s'arrête, ben ça fait du bien. Vous voyez ? Bon, c'est un peu l'histoire, cette histoire-là. Bon, ici c'est... Ben oui, vous êtes tout le temps en bonne santé. Ben, vous ne jouissez pas de votre santé. Vous n'en jouissez que parce que vous avez été préalablement malade, parce que vous avez connu l'expérience de la maladie. Deuxième prisme, la comparaison. Alors, le spectacle... Alors ici, le spectacle du malheur d'autrui joue le même rôle que le souvenir de nos malheurs. Il permet de nous rendre sensibles un bien-être qui, sans cela, resterait plutôt inaperçu. Et alors ici, Schopenhauer va citer les vers du célèbre poète et philosophe Lucrèce, poète et philosophe latin du 1er siècle après Jésus-Christ, qui ouvre le deuxième livre de son De Natura Rerum, de la nature des choses. Bon, et c'est un disciple d'Épicure, c'est un philosophe hédoniste. Philosophe hédoniste, un philosophe pour lequel, effectivement, le plaisir est le bien suprême. Hein, le bonheur consiste dans le plaisir. Bon, eh bien, vous allez voir que Schopenhauer va utiliser Lucrèce contre lui-même, d'une certaine manière. Regardez bien. Il cite donc ce fameux vers latin. Alors, lui, il connaît très bien toutes les langues. Hein. Il connaît le latin, il l'a appris tout seul, d'ailleurs, quasiment. Presque, en tout cas. Et donc, la traduction, je ne crois pas que ce soit lui qui donne la traduction. Hein. Bon, lui, il lit directement le texte. Hein. Alors, vous voyez, vous avez les vers latins, et puis vous avez la traduction juste après. Ligne, c'est page 2, hein, c'est le texte numéro 7 en haut, à droite. Il est doux quand la mer est forte, quand les vents agitent l'onde, d'assister du rivage aux efforts des marins. Non que la souffrance d'autrui soit pour nous une joie véritable, mais voir de quelle peine on est à l'abri, voilà ce qui est doux. Mais voir de quelle peine on est à l'abri, voilà ce qui est doux. Ah, que c'est agréable de voir les autres souffrir. De notre place, nous sommes au chaud, hein, en quelque sorte. Hein. Bon, alors ce que je disais, c'est que Schopenhauer fait un usage assez malicieux de ces vers de Lucrèce en les retournant en quelque sorte contre leur auteur. Parce que Lucrèce est un disciple d'Épicure, c'est un philosophe hédoniste qui, comme je vous le disais, fait du plaisir le bien suprême, le but suprême de la vie, la seule réalité pleine et durable. Toute la philosophie épicurienne est construite là-dessus. Alors ça ne veut pas dire qu'une vie de plaisir consiste à accepter tous les plaisirs. Hein. Il y a un calcul des plaisirs. Bon. Mais il y a toute une certaine subtilité de cette philosophie. Mais en tout cas, cette philosophie, elle fait du plaisir, finalement, le but suprême de l'existence. Or, qu'est-ce que montre Schopenhauer contre, justement, la philosophie hédoniste? À travers ses vers de Lucrèce, il montre que le plaisir n'est rien par lui-même. Et qu'il ne peut être ressenti qu'indirectement, hein, par comparaison avec la souffrance des autres, avec le malheur d'autrui. Nous avons besoin du malheur d'autrui pour prendre conscience de notre propre bonheur. Voilà la leçon. Et puis, après le souvenir, après la comparaison, il y a un troisième prisme, c'est la perte. La perte nous fait ressentir, mais toujours trop tard, la valeur de ce que nous possédions. Ainsi comme le montre Schopenhauer dans le chapitre 56 des suppléments. Alors là, je ne sais pas si je l'ai cité. Si, c'est le texte numéro 8. Le texte numéro 8, donc, page 2. Le texte numéro 8, page 2. Et c'est le premier texte, mais vers la fin, vous voyez. Bon. Donc, comme je vous l'expliquais, donc, la santé, la jeunesse, la liberté, ce sont des biens que vous ne pouvez apprécier que lorsque vous êtes soit malade, soit vieillard, soit prisonnier. Ben oui, les jeunes ne savent pas apprécier leur jeunesse. Il n'y a que lorsque vous êtes vieux que vous considérez que vous appréciez la jeunesse. Vous trouvez que c'est un bien. Et pour comprendre donc la valeur de ces biens, il faut que nous les ayons perdus. Alors, regardez bien, on va citer un passage tout de même de ce texte. Regardez, ligne 48. Ah non, 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 c'est pas là. Non, c'est ligne 20. Attendez, là je suis un peu perdu. Texte numéro 8, donc, c'est bien ça. Ah ben non, c'est celui qui est en bas. C'est celui qui est en bas à partir de la ligne 15. Regardez bien, j'ai souligné le passage. Aussi, n'apprécions-nous pas les trois plus grands biens de la vie, la santé, la jeunesse et la liberté, tant que nous les possédons. Pour en comprendre la valeur, il faut que nous les ayons perdus, car ils sont aussi négatifs. Que notre vie était heureuse, c'est ce dont nous ne nous apercevons qu'au moment où ces jours heureux ont fait place à des jours malheureux. Alors, là, il y a un paradoxe, hein, tout de même, qui se traduit par une sorte de cercle infernal. Nous souffrons de nos manques. Hein, sans jamais pouvoir jouir de ce que nous possédons. Et nous sommes alors condamnés, de ce fait, à nous trouver toujours en retard sur notre propre bonheur. Et alors, il y a une formule, ça me fait penser à une formule que nous employons souvent quand nous voyons quelqu'un qui se plaint, qui a l'air franchement d'être malheureux, alors qu'il a tout ce qu'il faut pour être heureux. Hein ? Eh bien, justement, vous allez voir que nous nous faisons des illusions ici. Je vais essayer d'utiliser les analyses de Schopenhauer. C'est-à-dire que nous reprochons à cette personne qui a tout pour être heureuse, de ne pas l'être. Nous l'accusons de ne pas connaître sa chance, de ne pas parvenir à se contenter de ce qu'elle a, et son incapacité à jouir de ce qu'elle possède nous apparaît comme un scandale au regard de nos propres frustrations. Et parce que si nous étions à sa place, nous serions profités, hein. Nous serions profités de ce qu'elle a et dont elle ne sait pas profiter. Alors, en fait, si vous regardez bien, ce reproche repose en fait sur une illusion, celle qui consiste à croire en la nature positive du bonheur. C'est-à-dire, celle qui consiste à croire que le bonheur a une réalité qui peut se saisir, qui peut être saisie, hein, et qu'on peut en jouir, hein, qu'on peut en jouir réellement, comme ça, hein. Nous méconnaissons, hein, en fait, que le bonheur n'est rien que de négatif, qu'il n'a en fait aucune réalité qu'imaginaire, et qu'il est imaginé toujours à partir d'une souffrance dont il est la cessation. Et comme nous sommes aveuglés par cette illusion, nous ne percevons pas que celui dont on dit qu'il a tout pour être heureux, eh bien, il manque précisément de la seule chose qui lui permettrait de jouir de son bonheur, à savoir même le fait de le perdre. Hein, si vous voulez, la seule chose qu'on puisse espérer, enfin qu'il puisse avoir de mieux, faire de mieux, c'est de perdre son bonheur pour pouvoir jouir. Mais après, quand c'est trop tard, du bonheur qui était le sien. Vous voyez, on arrive à cette espèce de paradoxe. Troisième conséquence, parce que le plaisir et le bonheur ne sont rien que de négatif, le bonheur n'est pas représentable. Il est irreprésentable. Et c'est ce dont témoigne la création artistique. Parce que ce que veut montrer ici Schopenhauer, c'est que l'homme se trouve en effet dans l'incapacité de se donner une représentation du bonheur. Il y a certes l'image du paradis. Là, vous êtes une méchante langue. Il y a certes l'image du paradis qui désigne un temps, un lieu où l'homme jouit d'un état de plénitude parfait. Mais ce paradis, l'art nous parle assez peu, hein, en général. Il excelle en revanche à nous représenter l'enfer. Étant donné d'ailleurs que celui-ci n'est jamais au fond que le miroir de la vie humaine, dirait Schopenhauer. Et le poète latin Lucrèce, que Schopenhauer cite volontiers, écrivait d'ailleurs lui-même déjà, je cite, « Tous les supplices, quand l'abîme infernal place la tradition, dans notre vie réside. » Pas besoin d'aller chercher très loin, hein, une représentation de l'enfer, il suffit de regarder la vie des hommes. Il en va ainsi des mythes de l'Antiquité grecque. Il y en a plein. Par exemple, le supplice des Danaïdes, qui revient souvent d'ailleurs, hein, qui est cité souvent par Schopenhauer, le supplice des Danaïdes, qui sont condamnés à remplir sans fin un tonneau percé pour avoir assassiné leur mari, Eh bien, ce supplice est à l'image de la condition absurde de notre être désirant. C'est-à-dire que ce mythe dépeint très bien notre impuissance à combler notre désir, qui a sans cesse besoin de se relancer vers de nouveaux objets, aussitôt qu'il est satisfait. Vous voyez ? Alors vous trouvez, d'ailleurs, au paragraphe 58, un passage assez remarquable. Par contre, là, je ne l'ai pas photocopié, je suis désolé, mais vous allez voir, c'est facile à saisir. Paragraphe 58. Je vous lis cet extrait. Un poème épique ou dramatique ne peut avoir qu'un sujet, une dispute, un effort, un combat dont le bonheur est le prix. Mais quant au bonheur lui-même, au bonheur accompli, jamais il ne nous en fait le tableau. À travers 1000 difficultés, 1000 périls, il conduit ses héros au but. À peine l'ont-ils atteint, vite le rideau. Et que lui resterait-il à faire, sinon de montrer que le but même, si lumineux, et où le héros croyait trouver le bonheur, était pur duperie. Qu'après l'avoir atteint, il ne s'en est pas trouvé mieux qu'auparavant. Comme il ne peut y avoir de vrai et solide bonheur, le bonheur ne peut être pour l'art un objet. Donc du bonheur supposé atteint, il n'est jamais question. Il n'est nulle question. Rideau. Ou tout au plus, les contes d'enfants nous assurent-ils à la fin que les héros vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. D'accord. Donc, mais qui peut être dupe? Qui peut être dupe sur ce bonheur qu'on est bien incapable de décrire, sauf précisément les enfants? Vous voyez, c'est ça l'idée. Donc, après, alors, vous voyez, toutes ces analyses, c'est assez marrant d'ailleurs, ça, je trouve assez certain humour hein, dans le texte de Schopenhauer. Donc, après avoir montré le plaisir, après avoir montré que le plaisir et le bonheur ne sont rien que de négatif, qu'ils n'existent qu'en rapport avec la souffrance, eh bien, il faut maintenant creuser jusqu'à la racine et comprendre pourquoi le désir est fondamentalement souffrance, soif inextinguible, dit Schopenhauer. Alors ici, bien sûr, il faut rappeler ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, que le désir est l'expression en l'homme de la volonté, donc cette puissance métaphysique aveugle qui se trouve en tous les êtres, qui couvre aussi bien les forces de la nature, les instincts des animaux que les désirs humains. Donc la volonté, donc cette force aveugle universelle, la volonté apparaît comme désir pour l'homme, en ce que l'homme est le seul à avoir vraiment accès à une représentation consciente. Seulement, c'est là le problème. C'est que cette représentation fait que l'homme ne peut pas s'empêcher de concevoir son désir comme orienté par un objet qui lui apparaît comme son terme, comme son but. C'est-à-dire que nous désirons un objet et quand nous désirons, nous représentons un but à atteindre. Hein ? C'est ainsi que nous représentons le désir par la représentation. Or, c'est là que l'homme est victime d'une illusion. C'est là qu'il est victime d'une illusion en s'imaginant spontanément que son désir s'explique par l'objet désiré. En voyant dans cet objet sa raison d'être et ce qui va lui permettre de le combler. Or, cette illusion, c'est précisément l'illusion de la finalité. L'illusion de la finalité par laquelle l'homme méconnaît le caractère aveugle, le caractère sans fin de la volonté, dont le désir humain n'est qu'une manifestation. Et ici, Schopenhauer se démarque de toute la tradition philosophique, sauf de Spinoza, c'est bien avec Spinoza qu'il partage ici cette analyse, il se démarque de toute cette tradition, de toute la tradition philosophique qui explique le désir par la représentation de l'objet dont on manque. C'est-à-dire que, pour la tradition philosophique, au fond, le désir procède toujours de la représentation d'un objet dont on manque. on désire, en fait, ce qui est essentiel pour la tradition philosophique, c'est l'objet qu'on désire. C'est l'objet qui est la raison d'être du désir. Vous voyez, c'est comme ça qu'on explique le désir. Or ici, donc selon cette représentation, selon cette tradition, c'est parce que je me représente l'objet dont je manque que je le désire. Et la satisfaction consiste alors à réaliser un but. Hein ? Elle consiste à réaliser un but. Et ce but, c'est celui qui consiste à posséder l'objet dont je manque. Or, évidemment, pour Schopenhauer, c'est là une illusion qui naît de la représentation que l'on a du désir. Parce qu'au contraire, loin que le désir soit la conséquence du manque d'un objet que je me représente, auquel cas ce serait la frustration du désir qui engendrerait notre souffrance, donc loin que le désir soit la conséquence du manque d'un objet qu'on se représente, le désir est en lui-même, il est en lui-même l'émanation de la souffrance de la volonté. Le désir est en lui-même producteur de manque, si vous voulez. Il faut ici comprendre que la souffrance est une dimension essentielle de la volonté qui, en produisant sans cesse le manque, engendre le désir selon un processus qui n'a pas de terme. Vous voyez, c'est la volonté qui, en quelque sorte, est à la source du caractère inassouvissable du désir. Ce qui fait que le désir ne peut jamais être pleinement satisfait, qu'il ne peut jamais même être satisfait par ses satisfactions, par les satisfactions momentanées qu'il éprouve en consommant un objet. Vous voyez ? Dès lors, le désir humain, en tant qu'il est justement une manifestation de la volonté, se déploie comme une pulsion aveugle, qui ne rencontre les objets sur son chemin, au fond, qu'à titre d'accident de parcours. Vous voyez, ce n'est jamais qu'en apparence que nous sommes attirés vers un objet, vers un but. Et cette analyse, il faudra s'en souvenir quand on va aborder la question de l'amour. Parce que ça va être un point très important. C'est-à-dire qu'au fond, la conscience que nous avons de désirer un objet, c'est quelque chose de tout à fait secondaire. Oui, nous pensons que c'est essentiel. Nous pensons que ce qui est essentiel dans le désir, c'est la conscience que nous avons de l'objet que nous désirons, hein, et dont nous estimons manquer, et que nous nous fixons comme but, en quelque sorte. Pour Schopenhauer, comme pour Spinoza, c'est quelque chose qui est secondaire. Vous voyez, la représentation de l'objet désiré est secondaire. Et nous sommes tentés de croire que c'est l'essentiel. Il en est en réalité du désir comme de la chute des corps, qui tombe en raison de la pesanteur et se heurte au sol terrestre. On peut ici faire une analogie. De même que l'essentiel dans la chute d'un corps, c'est la pesanteur qui meut ce corps, et non pas l'objet qu'il va rencontrer sur sa route, eh bien, de même, la tension qui anime le désir est plus essentielle au désir que l'objet vers lequel il tend. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est ce qui fait l'essentiel du désir, c'est cette espèce de pulsion primitive qui va aller d'objet en objet, mais l'objet, lui, est tout à fait secondaire. Hein. Les objets singuliers vers lesquels porte ou se porte notre désir ne sont que l'occasion secondaire de son exercice. Et c'est pourquoi ces objets ne le comblent pas. C'est pourquoi aucun objet ne saurait combler le désir. Aucune satisfaction n'est satisfaisante. Vous voyez ? Il y a quelque chose d'inassouvissable. Et le désir ne peut que renaître de la satisfaction occasionnelle qu'il éprouve par la possession d'un objet. C'est pour ça que Schopenhauer peut écrire à la fin du paragraphe 29, alors c'est page 3, c'est le texte en haut à gauche. Il peut écrire ainsi, je vais lire le texte. Il en est Ainsi, de même, des efforts et des désirs de l'homme, leur accomplissement, but suprême de la volonté, miroitent devant nous. Mais dès qu'ils sont atteints, ils ne sont plus les mêmes. On les oublie. Ils deviennent des vieilleries, qu'on se le cache ou non. On finit toujours par les mettre de côté comme des illusions disparues. Trop heureux, celui qui garde encore un désir et une aspiration, il pourra continuer ce passage éternel du désir à sa réalisation. Et de cette réalisation à un nouveau désir, etc., etc., etc. Donc vous voyez que dans la satisfaction d'un désir momentané, il y a toujours une déception. L'acquisition d'un bien convoité, loin de provoquer en nous le plaisir espéré, nous fait au contraire apparaître son caractère illusoire. Ce n'était que ça. Ou comme dans les romans de Proust, dire qu'elle n'était pas mon genre. Hein, à la fin, ça se termine comme ça. D'ailleurs, Proust est un lecteur de Schopenhauer. Hein. Il faudrait lire à partir de Schopenhauer beaucoup d'écrivains hein, qui sont tous complètement subjugués par Schopenhauer. Bon. Mais si nous revenons de nos illusions quant aux objets du désir, ben, il n'en demeure pas moins, en revanche, que nous restons toujours prisonniers de notre illusion concernant le désir lui-même. C'est-à-dire que nous restons prisonniers de l'illusion, de la finalité par laquelle nous nous représentons le désir. C'est-à-dire que, par exemple, nous sommes déçus par cet objet que nous convoitions tant, mais nous ne pouvons pas nous empêcher de penser que le nouvel objet que nous convoitons, lui, nous satisfaire pleinement, jusqu'à ce que nous le possédions, et ensuite, ça recommence, et ainsi de suite. Vous voyez ? C'est-à-dire que, vous voyez, bon, nous sommes en quelque sorte, nous revenons de notre illusion concernant l'objet, mais jamais nous ne revenons de notre illusion concernant le désir. Et c'est ainsi que nous ne cessons de relancer notre désir dans une course sans fin. Remarquez, comme le dit Schopenhauer, tant mieux pour vous, parce que si votre désir n'était pas relancé, ce serait l'ennui. Alors, c'est une souffrance épouvantable. On va en reparler. Donc on comprend alors que la recherche du bonheur, c'est une quête absurde. Une quête absurde qui mène l'homme à une agitation sans fin et produit en réalité son malheur. En recherchant le bonheur, en fait, vous faites votre malheur. Et sur ce point, les analyses de Schopenhauer sont très proches de celles de Pascal. On peut dire que Schopenhauer est un disciple de Pascal, un disciple athée de Pascal. Alors, je vais être rapide sur ce point, c'est le dernier point que j'aborde. J'ai même photocopié des textes de Pascal, vous avez page 3, vous verrez. Ils s'accordent tous les deux sur le constat qu'on peut faire de la condition humaine. Et comme le montre remarquablement Pascal, dans la pensée 138, édition Le Guerne, hein, folio, les hommes sont en proie à une contradiction. Ils aspirent tous au bonheur, y compris celui qui va se pendre. Ils recherchent tous le bonheur, mais ils sont tous impuissants à l'atteindre, et quelles que soient leurs conditions. Alors, je lis quelques extraits, et ça, Schopenhauer est tout à fait en accord avec cette analyse. Regardez bien Pascal, au début, en bas, à gauche. « Tous les hommes recherchent d'être heureux, cela est sans exception, quelques différents moyens qu'ils y emploient. Ils tendent tous à ce but, ce qui fait que les uns vont à la guerre et que les autres n'y vont pas, et ce même désir qui est dans tous les deux accompagné de différentes vues. La volonté ne fait jamais la moindre démarche que vers cet objet. C'est le motif de toutes les actions de tous les hommes jusqu'à ceux qui vont se pendre. » Et puis, plus loin, Vous allez en haut à droite. Et, bon, ils veulent tous être heureux, mais une épreuve si longue, si continuelle et si uniforme devrait bien nous convaincre de notre impuissance d'arriver au bien par nos efforts. Alors, nous voulons tous être heureux, mais nous sommes tous incapables d'atteindre le bonheur. Telle est la contradiction qui caractérise la condition humaine. Alors là-dessus, Schopenhauer est en plein accord avec ce qu'écrit Pascal. Mais si Schopenhauer et Pascal s'accordent sur le constat, ils n'en tirent pas le même diagnostic. Ils n'en tirent pas les mêmes conclusions. Pour Pascal, le désir humain est condamné à errer d'objet en objet, faute de retrouver le véritable objet qui puisse lui procurer la plénitude, c'est-à-dire Dieu, dont il a été séparé par le péché originel, du fait du premier homme, Adam. Je ne développe pas. Hein. Vous connaissez, sans doute. On avait consacré une année à Pascal. Bon, eh bien, effectivement, vous retrouvez ce mythe augustinien. Là, effectivement, Pascal est un disciple de saint Augustin. Péché originel. Et puis, pour Schopenhauer, en revanche, c'est précisément parce qu'il ne peut pas y avoir de véritable objet du désir que nous ne cessons de désirer. Le désir, c'est une force aveugle qui, par nature, est dénuée de finalité et qui va d'objet en objet. Aucun retour à un bien originairement perdu ne saurait par conséquent nous faire renouer avec le bonheur. Le malheur de la condition humaine est une nécessité de nature, indépassable. Hein ? On ne peut pas y échapper. Donc c'est encore plus radical. Ces deux philosophes se retrouvent également sur la description et l'importance qu'ils accordent tous les deux à ce fameux affect qui est l'affect de l'ennui, qui est une souffrance. Hein. L'ennui, il faut l'entendre au sens fort. Hein. C'est une souffrance. D'ailleurs, dans les textes littéraires du XVIIe siècle, il faut l'entendre toujours au sens très fort. Alors, regardez Pascal. Alors, ça, c'est le texte qui vient ensuite. Alors, c'est un extrait hein, que je cite dans la pensée 126. Vous connaissez tous cette formule. Hein. Et, alors, je la trouve ligne 22. 21-22. Attendez. Bon, on va lire à partir de la ligne 18. Mais quand j'ai pensé de plus près et qu'après avoir trouvé la cause de tous nos malheurs, j'ai voulu en découvrir les raisons, j'ai trouvé qu'il y en a une bien effective qui consiste dans le malheur naturel de notre condition faible et mortelle. Mais c'est pas cela que je voulais lire, mais ça fait rien, je l'ai lu, c'est plus haut, c'est ligne 8 à 10. Bon, on va commencer dès le début. Quand je m'y suis mis quelquefois à considérer les diverses agitations des hommes et les périls et les peines où ils s'exposent dans la cour, dans la guerre, d'où naissent tant de querelles, de passions, d'entreprises hardies et souvent mauvaises, j'ai dit souvent que tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. Vous connaissez cette formule ? Bon. Alors, pourquoi le repos est horrible ? Pourquoi le repos constitue-t-il le pire des malheurs ? Ben parce qu'il contraint les hommes à voir en face, comme il le dit plus loin, leur condition faible et mortelle. Seule l'agitation, ce que Pascal appelle le divertissement, hein, seule l'agitation permet, au fond, d'échapper à cette condition. Mais le repos nous contraint à la regarder en face. Et c'est insupportable. Eh bien, que dit Schopenhauer ? L'ennui est une souffrance qu'on éprouve quand on cesse de désirer et qu'on tombe dans un vide épouvantable. Vous voyez, description aussi assez effrayante. Hein ? Mais là encore, si les descriptions sont assez voisines, les interprétations divergent. Pour Pascal, l'ennui porte en lui-même son propre remède. Il accule l'homme à la conscience de sa condition et le conduit à chercher au-delà de celle-ci, son remède, c'est-à-dire en se tournant vers Dieu. C'est-à-dire que l'ennui finalement mène à la religion, d'une certaine manière. C'est ça l'idée. Pour Schopenhauer, la religion ne peut aucunement apporter un remède à l'ennui, hein, il est irréductiblement athée, ou la religion ce n'est jamais qu'une forme de divertissement. C'est-à-dire que c'est une façon de fuir sa condition. Donc, vous voyez, ici, la conclusion est radicale. Il faudra d'ailleurs lire un texte très amusant, où il se moque un peu de, justement du dimanche, le jour de l'ennui. Hein, bon, on verra ça. Alors, effectivement, il accorde beaucoup d'importance à l'ennui. Mais là, je ne vais pas développer parce qu'on arrive à notre fin. L'ennui, c'est pour lui cet affect privilégié qui révèle à l'homme la souffrance qui constitue le fond permanent de sa vie. Car dans l'ennui, vous ne souffrez de rien en particulier. Hein ? Mais vous souffrez du fait d'exister. Vous souffrez de l'absurdité de l'existence, qui est une existence sans but. Vous voyez, dans l'ennui, il y a quelque chose de nauséeux, un peu comme dans la nausée de Sartre, si vous voulez. Et d'ailleurs, Sartre et Schopenhauer, rien, à mon avis. Hein, c'est cette expérience de l'absurdité, de la contingence radicale de l'existence. C'est ça qui est insupportable. Et, alors évidemment, ma conclusion, mais là, je ne vais pas développer, c'est simplement une piste, hein, il faudrait en reparler. Si vous avez bien compris, si on a bien compris que le désir voue l'homme au malheur, et qu'en recherchant le plaisir et le bonheur, il ne peut que trouver la souffrance. C'est-à-dire qu'au fond, il n'est absolument pas hédoniste. Eh bien, il est nécessaire d'en tirer toutes les conclusions qui s'imposent pour cesser d'être malheureux, pour être moins malheureux. Et le pessimisme débouche ici sur une conclusion pratique qui est l'ascétisme. Ou ce que Schopenhauer appelle aussi la négation du vouloir vivre. La négation du vouloir vivre. D'ailleurs, au fond, il s'agit désormais de se libérer du vouloir vivre, de la volonté, qui est la source de notre malheur, parce qu'elle nous soumet à la tyrannie des désirs. Et de quelle manière se libérer de ce vouloir vivre et de cette tyrannie des désirs ? Eh bien, en apprenant à cesser de désirer. À diminuer l'empire que les désirs ont sur nous, par un combat qui ressemble à celui qu'on mène contre une addiction. C'est comme ça qu'il l'envisage. Afin d'atteindre un sentiment de quiétude, un sentiment de paix et de sérénité, celui que procurera l'extinction des désirs. Évidemment, je pense, à partir de là, on peut lire Nietzsche. Nietzsche est un lecteur de Schopenhauer qui va rebondir là-dessus. Toute la réflexion de Nietzsche va se construire à partir en réaction. En même temps, une grande admiration pour Schopenhauer, mais par un refus de ce qu'il considère comme un nihilisme. Hein ? Et donc, tous les premiers textes de Nietzsche sont, je dirais, pensés à partir et contre Schopenhauer. Dans La naissance de la tragédie, il est là, Schopenhauer. Donc c'est pour ça que ça me paraît assez intéressant de lire Schopenhauer, même si c'est une lecture, même si c'est un texte assez particulier, mais qui a tout de même une certaine force, une certaine beauté même, on peut dire. J'arrête là pour ce soir. Alors voilà, bon. À partir de là. C'était un pessimiste bon vivant. Ah non, tout à fait, il aimait bien la bonne chère.
Il avait compris que l'ennui dans la souffrance, ou l'ennui dans le bonheur, il vaut mieux l'ennui dans le bonheur. Quand même.
Non, il vaut mieux l'ennui dans le désir. Il vaut mieux être... Il vaut mieux tromper son existence par des désirs. Mais en même temps... Oui et non, parce qu'il y a tout de même une solution. Tant que vous êtes tyrannisé par les désirs, vous rendez malheureux. Donc, alors, il y a plusieurs voies pour se libérer de l'emprise des désirs, donc de se vouloir vivre. Il y a l'ascétisme, Et c'est pour ça qu'il est attiré par le bouddhisme. Alors, est-ce qu'il a vraiment bien saisi ce qu'était réellement le bouddhisme ? Je ne sais pas. En tout cas, c'est un des premiers à s'y intéresser en Occident. L'art, l'approche esthétique, permet effectivement de se libérer momentanément de l'emprise du vouloir vivre, et puis aussi, sur le plan moral, la compassion. Alors là, évidemment, faudrait pouvoir avoir le temps d'expliquer. Mais la compassion, qui est un sentiment, hein, et qui abolit les frontières entre les individus, parce qu'en fait, nous participons tous de la même volonté, du même fond unique de réalité. Et c'est ce que nous découvrons à travers la compassion. Oui ?
Oui. En fait, j'ai retrouvé dans un livre de ma bibliothèque, comme ça, d'Arthur Schopenhauer, donc l'art d'être heureux.
Ah oui,
il y a donc des règles de vie là. C'est vrai qu'on parle à la fin d'ascétisme, mais il a essayé, parce que c'est une compilation de textes qui s'est fait sur plusieurs années, hein, des textes très jeunes. Et c'est un peu plus compliqué qu'à traverser par un simple ascétisme. Il essaye, j'ai l'impression, enfin, comme ça que je l'ai lu, de faire en sorte d'être heureux malgré le...
Oui, mais il y a des techniques tout de même.
La notion de plaisir négatif, etc. Donc,
oui.
Essayer d'avoir des règles de vie, de comportement, qui rappellent un petit peu les stoïcistes, peut-être.
Oui, il est assez proche, les stoïciens.
Et ce qui veut présenter, on a l'impression quand même que le désir d'être heureux est quand même quelque chose qui est assez profondément ancré chez lui, tout en reconnaissant,
c'est paradoxal tout de même,
tout en reconnaissant d'ailleurs lui-même que ça fut
le désir. Parce que dans le monde comme volonté et représentation, c'est quand même la négation du vouloir vivre, hein,
voilà,
qui est recherché.
Là, il y a des textes où c'est
moins peut-être, oui. Alors là, il faudrait effectivement regarder ça de plus près.
Voilà.
Hein, parce que c'est sûr que là... Mais il n'y a pas de... comme le bonheur n'est rien que de négatif, en fait...
il faut essayer de ça à une espèce d'accommodement.
D'accommodement, oui. Voilà. Et étant entendu, quand même, que la recherche du bonheur nous rend malheureux, nous voue au malheur. Donc il faut diminuer. Diminuer la souffrance. Et pour diminuer la souffrance, il faut se désintoxiquer du désir. En fait, voilà.
Quelle différence entre l'extinction du désir et l'ennui?
Alors, oui, là, l'ennui, c'est... disons que là, il y a une forme de détachement qui ne consisterait pas à subir effectivement cette souffrance que constitue l'ennui quand on cesse de désirer. Mais c'est vrai que c'est pas évident à comprendre. C'est pas évident à comprendre, cet ascétisme. Cet ascétisme conduit à une forme de quiétude que l'ennui ne procure pas. Bon, mais... à creuser.
Le détachement est actif en quelque sorte,
oui.
Alors que l'ennui serait passif.
Voilà, ça je dirais, oui, je dirais ça, effectivement. Mais
la croix de l'ennui et on travaille au détachement.
Oui, mais tout de même, il y a quelque chose de paradoxal, c'est-à-dire qu'il faut, d'une certaine façon, on est actif, donc il faut vouloir s'arracher au vouloir. Enfin, il y a une sorte de paradoxe tout de même. Hein, qui est pas facile à saisir. Alors, je pense à un chapitre, ou un livre, plutôt, un des suppléments, pardon, qui est consacré plus exactement à cet ascétisme. Et il admire, d'une certaine façon, effectivement, les pratiques de pénitence religieuse. Non pas parce qu'il est croyant, hein, mais parce que il y a un art de vivre, là, qui peut, effectivement, dont on peut éventuellement s'inspirer. Visiblement.
Et le jeu, quelle place pour le jeu au sens ludique, le jeu des enfants, des chats ou entre adultes de consentement, est-ce que ça n'a pas quelque chose de gratuit qui n'est pas...
Je ne vois pas trop le gratuit.
pas de divertissement non plus.
Disons que tant qu'on est sous l'emprise du vouloir vivre, on est dans une démarche intéressée. Et effectivement, ce qu'il prône, c'est une forme de désintéressement. De désintéressement qui nous détache justement cette espèce de tension permanente.
Le jeu vouloir a quelque chose de gratuit, justement. Donc
alors voilà, mais ce désintéressement, il l'éprouve dans la contemplation esthétique, dans la philosophie. Il rapproche les deux. Et dans la morale, de la compassion, dans l'ascétisme. Ouais. Mais c'est l'expérience du jeu.
Elle est un peu étrangère,
oui. Oui. Pas vu, en tout cas. Oui.
Qu'est-ce qu'il dit sur la méditation? Est-ce qu'il a écrit quelque chose là-dessus?
La méditation, non.
Qui permet justement de partir de tout
ça. Ah ben non, la contemplation, par contre.
Oui, il parle de contemplation.
La contemplation qui permet effectivement de voir le monde, mais d'une manière détachée.
Ou de ne pas le voir.
Et là, ça a beaucoup d'importance. L'art va permettre cette contemplation. Va permettre effectivement. Alors, et là aussi, c'est un paradoxe. Il y a un plaisir esthétique qui n'est pas du même ordre que le plaisir intéressé.
C'est pour ça que dans la méditation,
il procède du désir. Alors, mais on emploie le même mot, mais enfin, en un sens, ça n'a plus rien à voir avec justement cette espèce d'intéressement vital par lequel nous nous investissons dans la vie ordinaire. Là, c'est une contemplation, il y a une forme de détachement à l'égard des choses. Et on les voit, on les contemple pour elles-mêmes. Oui.
Vous parliez de délivrance par l'ascétisme, l'art et la compassion, et au-dessus, on dit que l'art est représentable par les fictions artistiques. Alors, moi, c'est un peu paradoxal de parler de fiction artistique et de délivrance par l'art.
Ah, si, parce que vous pouvez, grâce à l'art, grâce aux tragédies, par exemple...
Côté cathartique.
Il ne va pas parler de ça, hein. Il va plutôt... Parce que catharsis, c'est tout de même un investissement, il y a tout de même une implication du désir et des passions, tout de même, hein, une purgation. Enfin bon, il y a de la frayeur, il y a un certain plaisir qui permet de se détacher de la peur, mais il y a tout de même de la peur. C'est-à-dire que dans la contemplation esthétique de Schopenhauer, il y a une distance, une forme de distance qui fait que, bon, on n'investit pas un désir dans ce que l'on contemple. Et là, la tragédie est une forme d'art qui nous permet de comprendre, de contempler la condition humaine. Vous voyez ? D'ailleurs, alors, il y a une préférence pour la tragédie moderne. Bon, il faudrait rentrer là-dedans.
Il y a un côté ludique aussi, en quelque sorte, dans la création. C'est-à-dire, on ferait comme si on serait tel personnage, on joue une pièce.
Alors, non, parce que ça, encore une fois, là, j'ai du mal à voir ce que vous dites. Je vois plutôt, tel qu'il en parle, la contemplation, c'est... on est au miroir du monde, on est au... Je dirais au spectacle du monde. Le monde se donne à nous dans son objectivité. On le saisit vraiment dans sa réalité lorsqu'on est dans la contemplation artistique. Alors on le voit tel qu'il est en lui-même, indépendamment de nos intérêts et de nos désirs. C'est-à-dire l'art nous donne à voir le monde indépendamment justement de nos intérêts. Parce qu'en général, dans la vie ordinaire, nous ne voyons pas les choses. Nous ne les voyons qu'à travers, au fond, nos points de vue intéressés.
Une façon de se détacher aussi.
Voilà, c'est une façon de se détacher. C'est toujours dans un détachement qu'il envisage.
Alors pourquoi on parle de fiction?
Oui.
Il y a un autre point que je voudrais creuser par rapport à la notion de compassion.
Oui.
Parce que compassion, c'est souffrir, d'une certaine façon.
Oui.
Effectivement, le but de souffrir. La compassion, c'est mitlag en allemand, ça souffrir avec.
Oui.
Est-ce qu'il n'y a pas là, au moins un éclaircissement ou une contradiction entre le fait de...
Alors là, je n'ai pas encore assez travaillé là-dessus pour pouvoir vous le dire, mais disons que ce que la compassion, ce que je pense être l'analyse de Schopenhauer concernant la compassion, c'est que la compassion nous fait voir que notre individualité, finalement, n'est qu'une pure illusion. Parce que je veux dire que nous nous percevons comme des individus séparés les uns des autres, distincts les uns des autres. Notre égoïsme, d'ailleurs, nous pousse à nous affronter, à nous confronter, à nous opposer. Et là, dans la compassion, nous nous délivrons, en quelque sorte, de notre forme individuelle pour vivre avec les autres une communauté. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, voilà, c'est ça. Mais il y a quelque chose, il y a peut-être même une forme de communion, en quelque sorte, qui se vit par la compassion. Mais là, bon... Oui ?
Est-ce qu'il y a une partie de caractère positif dans la volonté ? Parce qu'on a l'impression que la volonté, c'est qu'on la subit, on ne l'utilise pas.
Ah ! Alors, bon, on est bien d'accord sur le sens du mot positif. Hein. Négatif, positif, c'est ce qui est réel. Hein. Bon. Alors, la volonté, c'est une force effectivement affective. C'est-à-dire, à la fois, c'est ce qui nous pousse à agir, mais c'est un mixte, à mon avis.
C'est sur le côté qui nous force à agir.
Voilà, c'est ce qui nous pousse, parce que c'est le dynamisme de notre désir procède de la volonté. Il s'accompagne de conscience, simplement. Ce qui fait que nous sommes distincts des animaux ou des choses. Hein. C'est que ce dynamisme de la volonté s'accompagne de conscience. C'est ce que nous appelons le désir. Alors, c'est ce qui nous force, ce qui nous pousse à agir. Alors, et nous ne choisissons pas, en ce sens-là. Hein. Bon, mais ça veut... Enfin, c'est vrai que c'est pas évident. Et là, il faudrait encore une fois, il faudrait 4 séances de plus. Et il faudrait montrer que, pour autant, il n'y a pas de fatalité. Il y a possibilité tout de même de rompre avec le cycle infernal du désir, puisque de vouloir vivre, puisque effectivement il y a une conversion possible. Alors, elle n'est peut-être pas donnée à tout le monde, pour Schopenhauer. Hein. Mais il y a une rupture possible. Il y a pas une, hein, on n'est pas condamné à l'emprise du vouloir vivre. Si j'ai bien compris ce que dit Schopenhauer. Alors, maintenant, concernant cette volonté, cette espèce de dynamisme, cette force qui nous anime...
J'irais presque jusqu'à dire la volonté, est-ce que la volonté... En chantant pas chez Schopenhauer, le côté optimiste qu'il peut y avoir dans la volonté...
Qu'on voit dans...
Qu'il peut y avoir dans la volonté, on a une image de la volonté assez optimiste par
ah non.
Chez lui, non.
Non, on est voué à la souffrance. Alors, encore une fois, comprenons bien la souffrance au sens, hein, c'est cette expérience du manque, hein, qui nous tient en quelque sorte, tant que nous vivons, et qui, parce que elle est à la fois la souffrance, elle est à la fois inhérente donc à la volonté, donc elle est subie de certaine façon. Vous avez raison. Hein, une forme de passivité à ce niveau-là, c'est un affect que nous ne choisissons pas, hein, que nous ne pouvons que subir, ça je suis d'accord. Et alors à la fois, elle procède de cette volonté, et en même temps, c'est vrai que la souffrance, elle est aussi ce qui résulte de l'obstacle que constituent justement les autres êtres auxquels nous sommes confrontés, hein, puisque effectivement notre désir va se heurter à des obstacles, hein, nous allons devoir lutter pour l'existence, hein. Les espèces doivent se lutter pour leur existence contre d'autres espèces, donc il y a un conflit. Il y a un conflit, effectivement, qui vient du fait que la volonté, ce principe unique et universel, se manifeste en plusieurs individus, en plusieurs espèces. Hein. C'est la même force qui se divise, en quelque sorte, en se manifestant, et les manifestations, les diverses manifestations de la volonté, qui s'objectivent, eh bien, sont conduites à s'affronter, à se confronter. Oui, il y a tout ça. Mais c'est vrai que, bon, là, il y a du subi, hein, je suis d'accord avec vous, c'est pas... Le malheur de la condition humaine est indépassable.
La volonté, on comprend...
Est-ce que cette volonté, ce vouloir vivre, pourrait pas qualifier comme l'instinct de survie. Finalement, nous sommes programmés pour mourir, et donc il y a une force plus vitale pour vivre.
Alors, c'est.
Alors, cet instinct.
Oui.
Évidemment, il y a une différence avec les animaux.
Oui, oui.
Mais la conscience de l'homme.
N'ajoute rien.
Permet d'accéder au désir.
Alors, c'est parce qu'il y a. C'est plutôt parce qu'il y a conscience et intelligence qu'il y a désir, que la volonté se manifeste comme désir. Mais au fond, la conscience n'ajoute rien. Pas grand-chose. Elle vous rend lucide. Elle vous permet de connaître. Elle vous permet. Bon, je ne dis pas qu'il n'y a rien qui se modifie, mais au fond, pour l'essentiel, la volonté, c'est une force aveugle. C'est une pulsion, c'est quelque chose, un fond primitif. Qui nous pousse à vivre. Alors que, il y a un texte, c'est le paragraphe 29, où Schopenhauer montre que si vous interrogez quelqu'un sur les raisons pour lesquelles il veut telle ou telle chose, il vous dira, bah, c'est parce que, il vous donnera un tas de raisons. Hein, il vous expliquera ses motifs. Mais si vous lui posez la question, comme ça, but en blanc, mais pourquoi voulez-vous ? Là, il est complètement désarçonné par la question, déstabilisé, il est incapable de répondre. Et pourtant, c'est ce silence qui met le doigt sur quelque chose d'essentiel. Oui, pourquoi nous voulons ? Il n'y a pas d'explication. La volonté est une sorte d'énergie sans raison. Alors, les forces naturelles sont l'équivalent des instincts. Les forces naturelles, la pesanteur, hein, elles sont des manifestations de la volonté dans le domaine de l'inanimé. Hein. Oui, en même temps, ça se conçoit. Quand vous vous souvenez de ce que nous disions sur la pesanteur, hein, c'est que c'est une force. Les physiciens sont capables d'expliquer comment les événements s'enchaînent, mais ils sont incapables d'expliquer cette force elle-même. Ils la supposent. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de faire la métaphysique. Hein ? Ils sont obligés. Et au fond, finalement, la notion de volonté ou la notion de force sont des notions finalement assez voisines. Qu'est-ce que nous expérimentons quand nous prenons conscience de notre volonté ? Ben, nous la vivons comme une force intérieure, une sorte d'énergie intérieure qui nous pousse à agir. Hein, encore une fois, quand Schopenhauer parle de la volonté, il retient surtout sa dimension pulsionnelle. Et ce que nous appelons, nous, la volonté, de façon illusoire, pour lui, c'est nous l'envisageons, notre volonté, comme une faculté intelligente, où nous nous représentons des buts. Ben, ça, c'est une conception, je dirais, illusoire. Parce que ce qui est essentiel dans la volonté, c'est sa dimension pulsionnelle. Bon, il y a quelque chose d'irrationnel qui nous tient. Et au fond, Schopenhauer est assez étranger, même assez rebelle à tout rationalisme intégral. C'est-à-dire qu'il n'est pas irrationaliste. Hein, la raison a son rôle. Mais il n'y a pas de raison pure, si vous voulez. La raison, notre pensée, elle est toujours déterminée par des affects. Les affects sont là. Et c'est pour ça qu'il est nouveau, hein, c'est pour ça qu'il est original, et c'est pour ça qu'il va ouvrir la voie à d'autres penseurs comme Freud ou Nietzsche. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pensée pure. Hein. Nous faisons l'illusion de penser que ce que nous avons décidé est le résultat d'une délibération purement intellectuelle. En fait, il y a des affects qui nous tiennent, hein, et dont nous ne sommes pas conscients. C'est pour ça qu'au fond, oui, il va ouvrir la voie à cette question de l'inconscient. Bien sûr. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant. Alors, c'est vrai qu'il y a des... C'est une pensée qui, encore une fois, il y a des questions auxquelles vous m'avez posées, je ne suis pas sûr de pouvoir bien y répondre, il faudra encore creuser. Je trouve assez intéressant de lire Schopenhauer parce qu'il ouvre des chemins. Voilà, c'est comme ça que je le vois. D'autres questions ? C'est-à-dire, moi, je conseille de lire Nietzsche à partir de Schopenhauer, puisque c'est un auteur que l'on met, qui a beaucoup de succès, un philosophe dont on parle beaucoup, mais je pense qu'il est d'abord un philosophe qui a lu Schopenhauer. Oui ?
Quand il parle d'objet, est-ce que c'est vraiment un objet qu'on conçoit nous, ou c'est plutôt une action ?
Un objet, c'est ce que vous vous représentez face à vous. Objet, par exemple, je ne sais pas, enfin... L'objet, c'est ce que nous nous représentons face à nous qui sommes sujets. C'est-à-dire, en fait, par exemple, je sais pas, moi, objet, étymologiquement, ça veut dire ce qui est jeté au regard, devant moi.
L'objet, mais là, l'objet du désir.
Ah ben, l'objet du désir, je désire une personne, je désire... vous voyez, l'objet, c'est le terme indéfini qui peut désigner une personne, un être, peu importe.
C'est pas justement... Ça
peut
pas être un projet.
Si, mais qui, on désire effectivement. D'ailleurs, d'une manière générale, quand on se représente notre désir, nous représentons comme agissant en vue d'un certain nombre de fins, d'un certain nombre de buts, une certaine réalisation de soi, une certaine image de soi. Donc, on a l'objet n'est pas forcément matériel. Hein, peut être une élaboration intellectuelle, absolument. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que de comprendre que la représentation que nous avons du désir, l'envisage comme quelque chose de finalisé, quelque chose qui se porte vers un but, ou qui cherche à atteindre des objets. Voilà. Et évidemment, c'est une dimension du désir. Celle par laquelle nous l'appréhendons, mais ce n'est pas la dimension essentielle. Schopenhauer. Hein ? Voilà. C'est là sa rupture avec la tradition.
Est-ce que ça explique la société de consommation ?
Ah ben, d'une certaine façon, tout ce qu'il dit sur cette espèce de course en avant, d'objet en objet, oui. C'est-à-dire qu'effectivement, la société de consommation, elle repose sur ce que Pascal appellerait le divertissement. Hein, on ne cesse de désirer, de chercher des objets pour fuir notre propre condition, pour ne pas avoir à nous regarder en face, à regarder notre propre condition, hein, une forme de fuite en avant. Et la recherche du bonheur ressemble beaucoup à ce type de fuite en avant. Alors lui, là, à partir de là, on peut complexifier l'analyse en montrant que la société va déterminer effectivement les objets que nous désirons, elle va nous influencer, etc. etc. Voilà. Donc, une question de... Non ? Bon, on peut considérer que l'affaire est close ? Très bien.
On avait mis ici. On avait mis ici. On s'est passé à la... n'aura pas de copie.
Tu me donnes les clés ?
Ouais. Oh, je vais te passer les clés.
S'il te plaît. Tiens, je ne vois pas comment ça s'arrête.
Tu n'arrives pas à l'arrêt ?
Non.
C'est sûr que tu l'as...